On est en face de la mairie d'Issy-les-Moulineaux. L'écriteau lumineux qui trône sur la place indique l'événement aux curieux comme aux spécialistes d'architecture. Ce soir, conférence de Selma et Salwa Mikou. Alors, on rentre, on s'installe au premier étage du salon. Les deux sœurs y expliquent leur vision de l'architecture, de sa place dans l'urbanisme actuel et futur, devant plusieurs dizaines de personnes.
Bonne soirée. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve pour... prendre le verre de l'amitié tous ensemble là-haut. Merci encore.
Mais comme on est un peu exclusif, on aimerait bien entendre les sœurs Mikou directement en face à face. Alors, on descend de l'étage, le temps de leur laisser la possibilité de débriefer leurs prestations.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comment ça s'est passé?
Très bien, très bien. Quelques questions assez... On va dire qu'on nous pose très souvent sur la façon de fonctionner, sur effectivement sur comment on travaille, comment fonctionne une agence, mmh. Et puis un petit peu sur les projets, et un petit peu aussi sur la question du Feng Shui.
Leur agence, c'est Mikou Design Studio, créée en 2005 après plusieurs expériences, collaborations avec d'autres grands noms de l'architecture, comme Jean Nouvel ou Renzo Piano. Une agence qui se décrit comme un espace d'expérimentation sur l'architecture. Mais alors, c'est quoi la marque Mikou ?
La pâte architecturale Mikou, si on peut dire ça comme ça, c'est un bâtiment qui conjugue technicité et artisanat, on va dire, qui conjugue aussi modernité et tradition. C'est un bâtiment qui se veut très flexible. C'est l'expression de la structure, c'est l'expression d'une polyvalence d'usage, des bâtiments qui se conjuguent au futur et surtout qui permettent de créer une nouvelle urbanité, c'est-à-dire des bâtiments qui essaient d'être urbains du rez-de-chaussée jusqu'au toit et qui ouvrent la voie à l'appropriation collective.
Pour parler de leurs différentes réalisations, de leurs différents projets, on évoque souvent une association avec le territoire, une inscription dans un milieu déjà existant, comme c'est par exemple le cas pour le siège d'Africa News à Brazzaville, ou lorsqu'elle tente de réinventer l'habitat troglodyte lors de la Biennale de Venise en 2014.
Bah, c'est une question d'échelle. Hein. C'est que, par exemple, un bâtiment, il va s'inscrire avec des proportions en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Est-ce qu'il a envie de s'inscrire avec douceur? Est-ce qu'il a envie de s'affirmer? Ça dépend aussi du contexte. Évidemment, si on est au Congo, c'est pas pareil que si on est dans le fort d'ici. Donc, on pense bien que la valeur climatique est différente, l'environnement est différent, les usages sont différents, l'appropriation par les utilisateurs est différente. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui rentrent naturellement en compte. On n'a même pas besoin d'y réfléchir. Ce sont les données qui sont considérées à la base, en amont de la conception. Et ce sont ces données-là qui, une fois non seulement découvertes, mais en plus explorées, vont créer le concept et être à l'origine, en tout cas, des premières idées. On ne part jamais de la page blanche, on part toujours de tout un collectif de contraintes, j'allais dire, des contraintes positives ou négatives, mais en tout cas du déjà-là avec lequel on doit composer.
Mais on ne peut pas partir de la page blanche, ça veut dire qu'on ne peut pas créer sans l'environnement existant?
On peut faire des projets utopiques, on peut bien sûr se libérer de tout. Mais c'est vrai que ça reste une utopie et quelque chose qui est assez déconnecté, finalement, d'une valeur d'usage ou d'une contrainte, qu'elle soit environnementale ou géographique ou technique. Mais la page blanche est un exercice intéressant. Pour nous, c'est un peu réducteur parce que déjà, quand on construit un bâtiment, on ne construit pas dans le désert, on construit dans un environnement urbain qui est un environnement géographique, historique, social, culturel... dans lequel il y a plein de paramètres. Et donc, on a un site, on a des données qui sont là. Et nous, on fertilise ces données pour venir créer le projet architectural. Donc, on est plutôt dans une pollinisation de toutes les données, de toutes les informations, dont on va faire une espèce de synthèse. Mais ça ne veut pas dire qu'on se sent lié par une histoire ou une géographie pour concevoir le projet architectural. Pas du tout. On est tout à fait libre de l'anticiper. Au contraire, on essaie vraiment de faire des bâtiments quelque part qui nous dépassent, qui seront là pour longtemps. D'ailleurs, c'est le propre un peu des bâtiments d'architecture, c'est qu'ils sont là pour une bonne centaine d'années. Ça doit transcender toutes les valeurs, j'allais dire, historiques, et donc plutôt s'adresser au futur. Mais c'est vraiment une harmonie des contraintes et de l'anticipation.
Une logique de recréation aussi visible à Issy-les-Moulineaux avec la piscine Feng Shui Aquazena, livrée en juillet 2015.
Justement, une des contraintes très fortes, c'est la contrainte de hauteur et la contrainte de l'enveloppe, puisqu'on ne devait pas dépasser les 8 mètres, et qu'on avait finalement un périmètre rectangulaire comme site, dont on ne pouvait pas aller au-delà. Et donc, cette idée, comment sortir du cadre, c'était la question de la piscine. Comment trouver des espaces extérieurs? Comment finalement se mettre en symbiose avec l'environnement? Et donc, de là est venue l'idée d'occuper la toiture comme un espace extérieur, mais aussi intérieur, puisqu'on y accède depuis la halle bassin. Et donc, finalement, cette toiture devient un espace et donc permet d'augmenter le bâtiment dans son rapport à l'extérieur, mais aussi dans son usage quotidien.
Justement, c'est un projet réalisé. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans une démarche d'avenir et comment ?
En fait, ce projet-là, c'est aussi pour nous un peu comme une, j'allais dire, une infrastructure ouverte parce qu'il est flexible. Il y a une polyvalence d'usage. Il y a des espaces qui peuvent être appelés à se transformer, notamment les espaces en haut où on a laissé des espaces libres, ouverts, qui peuvent être utilisés comme des espaces pour venir lire, pour travailler en attendant que ses enfants finissent de nager. On a pensé à des espaces qui peuvent demain être appropriés d'une autre façon si le mode d'utilisation de l'espace était amené à changer. Le solarium sur le toit, c'est aussi un espace en lui-même et c'est aussi un espace hybride qui peut demain être utilisé pour d'autres fonctions. On peut tout à fait imaginer y ajouter un espace de sport en plein air, faire un terrain de badminton. Enfin, on a des possibilités de transformer le bâtiment.
Multiplier les fonctions, laisser la place à de nouvelles créations à l'avenir. Pour les sœurs Micou, c'est un enjeu essentiel pour les architectes.
On est dans l'ère de la superposition des fonctions, on est dans l'ère de la mixité typologique, urbaine, de la mixité des publics. On est vraiment dans l'idée aussi de la flexibilité, un bâtiment qui finalement peut être tout à la fois avec cette idée de travailler la technicité, travailler l'enveloppe pour qu'il puisse abriter cette pluralité et pour qu'il puisse se transformer à sa guise et donc permettre des usages amplifiés.
Justement, la ville de demain, pour vous, elle ressemble à quoi ?
Eh bien, ce serait une ville qui colonise la troisième dimension, j'allais dire, qui colonise les airs, le ciel. Voilà, c'est vraiment habiter le ciel pour nous. Donc la grande hauteur, l'emprise minimale au sol et justement la multiplication des surfaces habitées en allant de plus en plus vers le haut. Donc ce serait vraiment de s'acheminer vers la superstructure. Densifier, mais aller plus haut, pas forcément par principe, tout en travaillant le bâtiment du sol, du rez-de-chaussée jusqu'au toit, encore une fois. On n'est pas dans l'idée d'un bâtiment qu'on pose sans attention, mais un bâtiment qui s'ancre au sol, qui monte, et pourquoi pas des bâtiments qui sont aussi, qui flottent. On l'a vu dans des exemples très intéressants d'équipements publics qui offrent un espace public sous l'interface du bâtiment. C'est cette idée de superposer des maillages différents depuis le rez-de-chaussée jusqu'au ciel en valorisant la troisième dimension.
Salwa et Selma Micou nous quittent pour retourner au fameux verre de l'amitié annoncé avec peut-être une idée en tête, celle pour les deux architectes d'avoir sans doute un rôle à jouer dans cet aménagement futur.